Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, le mois de l'entrepreneuriat, c'est novembre. Une quarantaine de rendez-vous est proposée dans les Alpes du Sud. Présentation dans ce magazine. Les conseillers départementaux des Alpes de Haute-Provence ont évoqué le budget 2022. Nous entendrons la présidente Eliane Bareille. Le centre des finances publiques de Manosque est en chantier. Sa rénovation est soutenue par le plan de relance du gouvernement. Se déplacer au quotidien en vélo, c'est l'objectif de l'association Mobiclou à Fort-Calquier. Le reportage de Mathieu Marc pour Force 7. La mutualité française invite à prendre soin de nos dents. Deux réunions d'information auront lieu à Gap et Talard. On s'apprête à fêter Halloween à Briançon, des détails dans un instant. Un groupe d'entraide mutuelle expérimentale est créé à Manosque. Il traite de l'autisme et des troubles autistiques. Reportage à la fin de ce magazine. Novembre, mois pour entreprendre.
Du 2 au 30 novembre, dans les Alpes de Haute-Provence et au sud des Hautes-Alpes, se tiendra le mois de l'entrepreneuriat. Des rencontres gratuites, ouvertes à tous et près de chez vous, souligne l'organisation. À la baguette et avec de nombreux partenaires, Initiative Alpes-Provence, dont l'expérience en la matière est reconnue. Après les confinements et leurs conséquences, beaucoup de nouveaux arrivants dans les Alpes du Sud avec des projets. Cette régénération s'ajoute aux résidents qui veulent créer ou reprendre une entreprise et qu'un réseau d'organismes et associations aide depuis des années. Ils conseillent ceux qui ont envie d'entreprendre, les guident et les suivent de l'idée au projet et à sa réalisation. Présent autour du président d'Initiative Sud, Jean-François Gonidec, lors de l'annonce de la manifestation, la Chambre de métiers du 04, le réseau Entreprendre, BGE ou encore le Crédit Agricole, chacun a exprimé motivations et satisfactions du travail en réseau. Concrètement et en 14 lieux, du Champsaur à Fort-Calquier, de Lubaye à Manosque ou encore Riez et Digne, de nombreuses thématiques et rencontres sont proposées. Renseignements et inscriptions obligatoires compte tenu de la situation sanitaire, initiativealpesprovence.org. Ancien directeur général de l'Occitane, Jean-François Gonidec, préside aujourd'hui le réseau régional des plateformes Initiative. Jean-François Gonidec, vous présidez Initiative Sud. À qui s'adresse le mois de l'entrepreneuriat ?
Eh bien, le mois de l'entrepreneuriat va s'adresser à toute personne dans tous les domaines d'activité qui a un projet qui lui trotte dans la tête et qui voudrait confronter à la réalisation de la création, de la reprise ou de l'extension de son entreprise. Tous les réseaux associés à ce mois de l'entrepreneuriat sont là pour soutenir et faire décanter des projets, quels qu'ils soient. Qu'ils soient des projets agricoles, qu'ils soient des projets industriels, qu'ils soient des projets artisanaux, qu'ils soient des projets de commerce, qu'ils soient des projets de création mono-emploi. On est là pour aider et soutenir l'impulsion.
Avec également un réseau qui s'est créé autour de ce mois de l'entrepreneuriat et beaucoup de partenaires.
Oui, tout à fait. On travaille avec tout le réseau qui est autour de la création. C'est d'abord, bien sûr, Pôle emploi. Ce sont ensuite les chambres de métiers de l'artisanat, les chambres de commerce, mais aussi tous les réseaux associatifs, que ce soit les nôtres avec la Fabrique Entreprendre, Cité Lab ou Initiative, mais que ce soit aussi les autres réseaux, comme l'ADI, comme BGE, comme le réseau Entreprendre, comme le GE, comme COSINS. Voilà, on est ravis parce que tous ces réseaux associatifs ont la même vocation. Ils travaillent sur généralement des cibles un peu différentes, en taille d'entreprise, en nature d'entreprise, en conditions d'accompagnement, mais on a tous la même vocation, qui est de soutenir et d'accompagner dans les trois premières années de leur vie tous les entrepreneurs qui veulent créer une entreprise.
Il y a également une fibre sociétale qui vous anime.
Oui, bien sûr. Nos sources sont bien sûr sur l'entrepreneuriat. On vient tous de la création d'entreprises. On est tous d'anciens entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs, des gens qui sont passés par cette expérience. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a aussi des responsabilités par rapport à nos territoires. D'abord, par rapport à nos villages, par rapport à nos EPCI, hein, nos communautés d'agglos, nos communautés de communes. Et donc, on développe des programmes qui vont vers des vocations sociétales. D'abord, avec la dynamisation des centres-villes, hein, on déploie des programmes autour de la création de boutiques. Hein, on les appelle Ma Boutique à l'essai. On développe, bien sûr, des lieux de vie pour les entrepreneurs dans toutes les villes où il n'y en a pas. Mais on va aussi vers des projets plus inclusifs dans les zones un peu plus difficiles, c'est-à-dire dans les zones QPV, hein, qui étaient prioritaires de la ville, avec un programme qui s'appelle Cité Lab. Et puis on va maintenant au ch'ti dans nos secteurs plus ruraux, hein, dans ce qu'on appelle au niveau argot administratif les zones ZRR de revitalisation rurale, pour aider des gens qui sont en rejet d'emploi ou qui sont des publics plus défavorisés à créer par entrepreneuriat leur propre emploi. À la fois la région, à la fois l'Europe, à la fois les ministères nous aident à porter ces projets par des subventions ou par des aides de prêts avec nos partenaires banquiers, dont le premier bien sûr BPI, hein, la Banque de l'État, qui nous soutient sur cette démarche.
Et puis c'est évidemment un mois qui se déroule sur les deux départements de Saint-Bonnet-Gap jusqu'à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes.
Oui, tout à fait. Alors on sera sur 14 lieux, hein, donc Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Barcelonnette, Fort-Calquier, Saint-André-les-Alpes, Mison, Barcelonnette, Gap, Fort-Calquier, Oraison, Riez, Le Chaffaut et Saint-Bonnet en Chaupsor. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible des territoires, d'abord pour travailler avec les missions économiques locales, mais aussi pour qu'on s'approche le plus possible des créateurs dans leur lieu de vie actuel ou dans leur futur lieu de vie. Donc on a pensé que dans ces conditions Covid, hein, qui nous amène à réfléchir sur autre chose qu'une grande messe dans un lieu, que c'était probablement une opportunité pour nous, et on en est ravis, d'aller au plus près des gens et au plus près des lieux de création.
Des écharpes et des projets importants pour le 04.
Maintenir une situation financière saine et solide dans un contexte économique et social dégradé. En quelques mots, l'objectif du débat d'orientation budgétaire des élus basalpins, la majorité départementale affiche un dynamisme qui permettra de porter un projet d'investissement ambitieux en faveur des collèges et des collégiens, également des infrastructures routières, sans oublier la transition énergétique des bâtiments, pour lesquels le coût des travaux d'investissement sera historiquement élevé. Juste après avoir étrenné et distribué la toute nouvelle écharpe bleu-blanc distinguant les élus départementaux, la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, Éliane Bareille, a répondu aux questions d'Odile Frison.
Éliane Bareille, quelques mots sur le débat d'orientation budgétaire pour 2022.
Oui, c'est un débat qui montre l'ambition du département de se développer, de le porter en dehors de ses frontières et de le faire connaître. C'est un débat qui permet de visualiser, de mettre en place une nouvelle organisation. Et donc voilà, je pense que le débat a été fructueux. Beaucoup de questions et beaucoup de remarques, mais foncièrement, je crois que c'était de bon ton de pouvoir en débattre.
Vous avez jugé important de revenir sur vos 3 mois d'exercice.
Oui, j'ai trouvé qu'il était important parce que 3 mois, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Et je trouve qu'on a fait quand même beaucoup, beaucoup de choses en l'espace de 3 mois. Il me semblait important de rappeler quelques points très importants.
Est-ce qu'on peut revenir sur le plan SDIS 2030?
Alors oui, effectivement, on s'est engagé auprès du SDIS, non seulement sur le plan bâtimentaire, mais aussi sur l'aide au SDIS pour l'achat d'équipements, la remise à niveau d'équipements, parce qu'il y a du retard à rattraper, et puis surtout par une prise en compte meilleure des sapeurs-pompiers volontaires. Ils avaient une prime qui était à 3%, alors que les voisins sont à 6 et 7%. Donc nous avons essayé, par cet apport supplémentaire, de les mettre au même niveau que les départements voisins.
Vous soulignez l'importance de vous rendre à Paris pour rencontrer plusieurs ministres.
Oui, je pense que les choses n'arrivent pas toutes seules. Il faut se battre, il faut aller les chercher. Donc nous profitons de notre présence au Salon du patrimoine pour aller rencontrer un certain nombre de ministres et porter la voix non seulement de notre département, mais plus globalement la voix de la ruralité. Parce qu'en fait, nos départements ruraux ne peuvent pas être considérés comme le département des Bouches-du-Rhône ou du Var, je le dis souvent, et qui n'ont pas vraiment du tout les mêmes moyens et qui ont besoin d'être davantage soutenus. Vous l'avez vu, nous avons prévu quand même une large organisation, donc je pense que c'est important de remettre des gens qui viennent d'ailleurs, qui ont une capacité différente, un investissement différent et qui vont venir compléter une équipe déjà très performante, mais à mon avis insuffisante.
Finances publiques à Manosque, l'appui du plan de relance.
Alors qu'une nouvelle organisation se profile et que le Centre des impôts de Manosque deviendra le pôle de gestion des professionnels, tout en conservant ses missions d'accueil des usagers, un chantier a démarré en septembre et comprend de nombreux aménagements. Ouvert en 1987, le bâtiment, fort d'environ 2000 m², dont 1085 en surface utile nette, bénéficiera d'une rénovation des systèmes de climatisation et chauffage, une ventilation mécanique, un éclairage intérieur quasiment individualisé, changement des huisseries extérieures et des opérations de désamiantage en bien des points. La présence de rideaux extérieurs et pas après les vitres offertes au soleil, par exemple, seront un plus que les agents vont apprécier. La maîtrise d'œuvre est assurée par l'architecte Michel Perrin et Nicolas Péchaud pour la partie fluide et électricité. La fin du chantier est prévue en février 2022. La facture s'élève à 708 000 euros, inscrit dans le plan de relance du gouvernement. Le premier dossier basalpin traité, a souligné avec satisfaction la préfète Violaine Desmarais lors de la visite du chantier. Le député Christophe Castaner a rappelé les 25 millions d'euros d'aide du plan de relance sur la seule ville de Manosque, 10 millions au lycée Martin-Brett, 13,2 à l'hôpital et aussi des soutiens aux entreprises Flodim et Pizza de Manosque, la ville ou encore l'atelier des Ormeaux. Je vous propose de les écouter tous les deux, mais d'abord, la directrice des finances publiques du 04, Isabelle Godard de Vaujany. Nous en profitons pour rappeler l'utilité de l'impôt dans notre pays. Isabelle Godard de Vaujany, vous êtes directrice des finances publiques dans les Alpes de Haute-Provence. Ces travaux à l'hôtel des impôts ici à Manosque, c'était inévitable et attendu.
Effectivement, inévitable et attendu, mais dans un calendrier que le plan de relance nous a permis d'accélérer. Nous avions en effet depuis quelques temps un projet qui a pour ambition de rénover toutes les installations de chauffage, l'isolation thermique du bâtiment, donc ce qui correspond vraiment aux évolutions attendues par nos équipes et nos concitoyens, hein, d'économiser l'énergie, de rénover. Et ce projet, d'un coût de 708 000 euros, n'aurait pas pu être réalisé dans ce calendrier sans le plan de relance.
Vous avez également prévu un accroissement du personnel.
Dans le cadre de nos réorganisations des services, en effet, nous allons faire du centre de Manosque le centre qui va gérer toutes les entreprises du département, mais en préservant bien évidemment l'accueil de nos usagers et des particuliers qui peuvent bien évidemment et qui pourront toujours venir à notre accueil. Mais nous allons en effet densifier les équipes, notamment en charge des entreprises. Donc ces travaux de rénovation thermique du bâtiment tombent vraiment à point nommé, puisque ce grand service départemental de gestion des entreprises, il va se mettre en place en janvier prochain. Et le chantier que vous voyez actuellement, eh bien, il a commencé en septembre à la rentrée et il sera terminé avec les pompes à chaleur, etc. Il sera terminé en février de l'année prochaine.
Est-ce que c'est difficile de concilier la continuité du service et de travailler pendant les travaux ?
Alors en effet, le chantier se passe en site occupé, c'est-à-dire que nos agents restent bien évidemment travailler sur ce site. Alors parfois, ils sont obligés de changer momentanément de bureau. Avec le travail à distance, on a parfois été obligé de faire un petit peu plus de télétravail le jour où vraiment les bruits des perceuses, etc. étaient un peu conséquents. Mais je remercie vraiment toutes mes équipes et les cadres qui s'occupent de ce chantier parce que tout le monde est extrêmement compréhensif et le chantier jusqu'à présent se passe bien. Je dois souligner l'excellent travail de notre architecte, M. Perrin de Château-Arnoux, et puis M. Péchaud de Sisteron, qui tous les deux coordonnent parfaitement nos entreprises. Et tout se passe jusqu'à présent dans un calendrier prévu. Et nous n'avons pas à déplorer de retard, notamment sur les livraisons. Vous savez qu'on entend parler de tensions sur les approvisionnements. Mais jusqu'à présent, croisons les doigts, touchons du bois, tout se passe très bien. Donc pourvu que ça dure.
Violaine Desmarais, vous êtes préfète des Alpes-de-Haute-Provence. C'est le premier dossier du plan de relance des Alpes-de-Haute-Provence ici.
Oui, quand on a lancé le plan de relance en septembre 2020, on a commencé par un premier appel à projet qui intéressait l'État, pour que l'État montre l'exemple et donc dépose des projets de rénovation thermique de ses bâtiments, puisque nous avons un patrimoine immobilier. Si on veut transformer le pays en faisant en sorte que les bâtiments soient moins consommateurs, lutter contre le réchauffement climatique, il faut qu'on commence aussi par nos bâtiments. Et donc ce projet a été retenu parmi 25 dans le département, de tailles différentes. C'est l'un des trois plus gros et qui permet en effet, dans ce centre des finances publiques, de faire de la rénovation thermique.
Centre des finances publiques, ça veut dire impôt. On rappelle que l'impôt, c'est nécessaire au fonctionnement de la France.
Oui, ce service et cette visite sont très représentatifs de ce que nous cherchons à faire. L'État investit massivement en soutien de l'économie et du pays suite à cette crise sanitaire. 100 milliards d'euros, ce sont des sommes énormes. Le département des Alpes-de-Haute-Provence a pu mobiliser et solliciter 700 millions dans le cadre de ce plan de relance. Mais pour dépenser, il faut avoir des recettes. Et donc pour avoir des recettes, il faut qu'il y ait des impôts et qu'ils soient recouvrés le cas échéant. Et c'est ce que fait ce service aussi.
Vous l'avez dit aussi, des entreprises auraient pu disparaître s'il n'y avait pas eu ce plan de relance.
Oui, ce qu'il faut mesurer, c'est que quand on prend par exemple l'appel à projet territoire d'industrie, où dans ce département on a un quart des lauréats au niveau de la région PACA, on a donné les chiffres récemment, nos 12 lauréats, ça permet de créer 160 emplois. Mais ça a permis de maintenir et d'éviter des entreprises de disparaître. Ça a été aussi le cas évidemment à travers le Fonds Solidarité, qui a justement été mis en œuvre par les agents de les finances publiques. Fonds Solidarité, c'est 125 millions d'euros dans le département et ça a permis des entreprises des différents secteurs, hôtellerie, restauration évidemment, mais pas que, de tenir.
Ce sont des aides qui vont perdurer ?
Ce sont des aides auxquelles un terme a été mis en partie, puisqu'on est passé à un nouveau dispositif depuis le mois de septembre. On reste présent aux côtés des entreprises avec des dispositifs sur mesure, notamment qui prennent en charge les coûts fixes. Donc on a un peu changé de braquet parce que la reprise est là, parce que la crise sanitaire commence tout doucement, on l'espère, à être derrière nous. Mais on reste évidemment là pour accompagner les entreprises qui ont des difficultés.
À vos côtés, Christophe Castaner, ancien ministre et député des Alpes-de-Haute-Provence. On est là dans le concret.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a rappelé la préfète, on est sur des enjeux financiers majeurs, 100 milliards d'euros pour le seul plan de relance, et ça n'est qu'une partie de l'ensemble des aides qui ont été mobilisées pour accompagner le pays pendant la crise sanitaire que nous avons connue. Mais ensuite, quand on redescend au concret, et ici, c'est plus de 700 000 euros qui sont investis dans ce bâtiment pour en améliorer les capacités énergétiques et donc la consommation énergétique. Et quand on descend dans un bureau, on échange avec des fonctionnaires qui sont ici et qui nous disent, ben voilà, l'éclairage a changé. Aujourd'hui, je peux avoir une lumière plus douce et je peux régler moi-même. Et ils nous ont fait une démonstration avec le régulateur qui permet de régler la lumière. Et au fond, on est dans le concret. Et c'est cela qui compte. Et puis pendant qu'on visite, on rencontre une entreprise. Bah, tiens, une entreprise de Manosque avec un jeune homme qui, il y a quelque temps, a fait sa formation de soudeur et qui, du coup, a un emploi. Tout cela est très concret et c'est le sens du plan de relance. C'est lutter notamment, et c'est une partie importante du plan de relance contre le réchauffement climatique, le faire de façon très concrète, mais c'est aussi accompagner, favoriser l'emploi au plus près des territoires.
On peut dire que les impôts font de l'environnement ?
Vous savez, c'est essentiel de rappeler, comme l'a dit la préfète, l'engagement de chacun de nos concitoyens à travers l'impôt. Parce qu'au fond, quand on a le sentiment de payer des impôts et que ça part dans le tonneau des Danaïdes d'un budget voté par des parlementaires dont je suis, on se dit à quoi ça sert. Par contre, au quotidien, on oublie à quoi ça sert. De la crèche quand on met notre enfant, à l'hôpital quand on a un sujet de santé, du médecin qui vient nous voir, tout ça est financé aussi par l'impôt. Et donc, il est essentiel de rappeler cela, de dire aussi de façon concrète que l'impôt, c'est un exercice de citoyenneté. Nous sommes aussi citoyens quand nous payons l'impôt.
Bobby Clou veut promouvoir le vélo de Fort-Calquier à Manosque.
La pratique du vélo est dans l'air du temps, c'est un fait. Et la Haute-Provence lui offre des itinéraires favorables. Pas si simple cependant, il faut bousculer nos comportements et habitudes et bien sûr adapter nos routes aux adeptes de la petite reine. L'association Mobiclou s'engage auprès des usagers et des communes pour promouvoir le vélo au quotidien, une mobilité propre et des aménagements urbains adéquats de Fort-Calquier à Manosque. Membre du conseil collégial et trésorière de Mobiclou, Daniel Klinger présente les valeurs défendues par l'association ainsi que les activités sur le territoire. Elle répond aux questions de Mathieu Marc. Daniel Klinger.
Le but de Mobiclou, c'est donc le vélo au quotidien, c'est-à-dire pas seulement le vélo de loisirs ou de randonnée ou le cyclotourisme, c'est vraiment utiliser son vélo dans la vie de tous les jours, le travail domicile, les courses, les enfants à l'école, etc. On se rend compte qu'on utilise beaucoup trop la voiture pour faire des très petits parcours de 2, 3, 4, 5 kilomètres, et Fort-Calquier en particulier, ou même Manosque, parce que maintenant on est en train de s'ouvrir sur Manosque et la DVA. On a donc ici un objet, le vélo, qui est vraiment conforme aux tendances actuelles de l'écologie, de la mobilité douce. La mobilité était un de nos soucis depuis longtemps, aussi bien au moment des élections municipales, c'était quand même une priorité. Et donc aujourd'hui, c'est le moment, on voit bien à la suite du confinement, hein, au niveau national et international, mais au niveau national, combien le vélo a pris d'importance, et les gens se sont tournés vers ce moyen de transport autonome, écologique, gratuit, enfin gratuit, il faut qu'on achète son vélo, mais disons peu coûteux en entretien, et puis excellent pour la santé et pour le lien social.
Et vous avez des activités sur le territoire, des ateliers, des manifestations, des temps d'échange. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de ces ateliers d'entretien des vélos ?
Un de nos buts, ce serait d'avoir un atelier, c'est-à-dire d'ouvrir un véritable atelier, mais un atelier d'autoréparation. Il s'agit que les gens viennent avec leur bicyclette, leur vélo, et puis on les aide, on les conseille, on les aide à réparer. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire pour l'instant des réparations très importantes. Là, il y a quand même des commerçants, des spécialistes, mais dans la crevaison, l'entretien du vélo aussi au niveau de la sécurité. À la journée des possibles, on a fait toute une activité autour de la sécurité, les freins, la lumière, la protection. Et les enfants étaient là, étaient très intéressés. Et les gens sont demandeurs parce que beaucoup veulent bien faire du vélo, mais sont démunis devant les petits tracas, enfin l'entretien quotidien.
Vous cherchez un local pour proposer ces ateliers d'autoréparation ?
Alors, on cherche un local, c'est difficile à trouver, du moins un local qui ne soit pas non plus à un coût excessif. On est une petite association, on a 72 adhérents, mais notre cotisation est bon marché, 2 euros. Alors, on peut donner plus, évidemment, mais disons qu'on ne roule pas sur l'or, et on cherche, on fait appel aussi autour de nous, peut-être les auditeurs ont des idées, sur Fort-Calquier, sur Manosque aussi, parce qu'on a, aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir aussi de couvrir la région.
L'appel est lancé pour trouver un local, j'espère, prochainement. Et en attendant, vous avez des ateliers itinérants que vous proposez dans la région.
Alors, pour l'instant, les ateliers, on les a fait ponctuellement. Le dernier, c'est à la Fête des Possibles à Fort-Calquier. Manosque va sûrement lancer un atelier prochainement. On n'a pas encore la date de la manifestation. C'est sur Facebook, c'est sur le site Mobiclou. On va lancer une newsletter. On a déjà commencé, mais le numéro 2 va paraître début novembre. Et donc, à ce moment-là, il y aura le programme des prochaines activités. Ce qu'on veut aussi faire, c'est des rencontres. On a fait une vélo-parade il y a 15 jours. On était 60 avec des enfants entre Fort-Calquier et Man. Mais c'était plus une manifestation ludique, petite manifestation comme qu'on existe. Mais là, on veut lancer peut-être des genre vélo-balades. On convie les gens qui ont envie de faire une sortie. On peut proposer des itinéraires un petit peu transversaux, pas la route nationale, faire découvrir aux gens qu'on peut se déplacer à travers la région, autour de Fort-Calquier, de Manosque, enfin partout. On peut trouver des itinéraires moins dangereux, parce que c'est ce qui fait peur un peu. Les gens ont souvent peur de la circulation.
Vous proposez aussi aux gens de se familiariser avec le vélo électrique et vous proposez aussi des moments de ce que vous appelez des remises en selle.
Alors, le vélo électrique séduit beaucoup de gens, mais en fait, quand les gens enfourchent pour la première fois un vélo électrique, c'est souvent les gens ont peur parce qu'ils se rendent le vélo part très vite, et donc il faut vraiment apprendre tranquillement, doucement, être encadré, c'est pas mal. Et on l'a vu quand on a fait nos journées de mai à vélo à Saint-Étienne, à Fort-Calquier, etc. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Et la remise en selle, c'est aussi aider des gens qui n'ont pas fait de vélo classique depuis longtemps, mais qui ont envie de s'y remettre et qui sont un peu insécurisés. Et ça a eu beaucoup de succès, ces ateliers de remise en selle, parce que ça redonne confiance.
Dernier point, et non des moindres, vous faites aussi la promotion des aménagements urbains pour le vélo.
Alors, on est en lien avec Labo Vélo, du parc du Luberon, les activités qui sont proposées autour du vélo, toutes les animations. Généralement, il y en a une à Manos sur les aménagements pour rendre sensible au type d'aménagements qui sont, parce que parfois les collectivités font des aménagements vélo, mais qui sont à non-sens ou qui sont dangereux ou qui sont pas adaptés. Il s'agit de sensibiliser les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes et puis le département, la région, pour trouver aussi des financements.
Une dernière chose?
Alors, Mobiclou, on est en lien aussi avec la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est une fédération nationale, et en fait, actuellement, circule le baromètre pour le vélo, et donc c'est un sondage qui est fait. Il faudrait que pour Fort-Calquier, il y ait au moins 51 personnes qui répondent pour que les réponses soient prises en compte au niveau national. Et il s'agit de dire sur ce site ce qu'on pense, quels sont les problèmes. Enfin, il y a toutes sortes de questions. C'est pas très long à répondre, mais ce serait important de donner son avis.
Prenez soin de vos dents avec la Mutualité Française Sud.
Dans les Hautes-Alpes, la Mutualité Française propose deux ateliers pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire. On l'ignore trop souvent, outre un beau sourire, la santé bucco-dentaire est essentielle pour conserver un bon état de santé général et une qualité de vie. D'où l'intérêt de ces deux rendez-vous à Tallard et Gap, les 5 et 10 novembre. D'une durée de 2 heures, ils sont animés par un professionnel formé à la santé bucco-dentaire qui expliquera comment prendre soin de sa bouche en fonction de son âge. Pour tout renseignement et pour mieux croquer la vie, 04 92 52 58 93, 04 92 52 58 93. Julie Boutelet est responsable de la prévention santé à la Mutualité Française. Elle répond aux questions de Vincent Vacher.
En présence de Julie Boutelet, responsable prévention santé pour l'antenne de la Mutualité Française 05, elle va nous signaler deux rendez-vous prochainement, le vendredi 5 novembre et mercredi 10 novembre, à propos de croquer la vie. Vous allez croquer la vie, et quand il faut croquer, il faut avoir des dents en bonne santé. Julie, bonjour.
Bonjour, oui, tout à fait. Nous mettons en place ces actions de prévention pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire, donc à tout âge, de la petite enfance jusqu'au senior, pour savoir comment prendre soin de ses dents en fonction de l'état de santé de ses dents et puis de l'âge qu'on a.
Qui plus est, on constate une pénurie de dentistes aussi bien à Gap, un peu partout, dans les villes et les zones rurales, forcément. Donc il faut en profiter. Vous l'expliquez comment ça, d'ailleurs, cette pénurie. Il y a beaucoup de dentistes qui sont complètement overbookés, malheureusement. Et les dents, c'est très important. C'est la santé générale, on pourrait dire.
Oui, alors en fait, on l'explique de manière un petit peu différente par rapport à ce dont les gens pensent. C'est-à-dire que nous avons théoriquement suffisamment de dentistes sur le territoire. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart du temps, ces dentistes ne sont pas à temps plein. Donc du coup, ça fait des plages horaires de soins qui sont très restreintes. Et quand on rapporte ça, les heures d'ouverture des centres dentaires ou des dentistes par rapport au nombre de la population, eh bien, on se remarque qu'en effet, on est en pénurie. Donc c'est compliqué. Et ensuite, on a quelques maîtres de stage qui peuvent accueillir des étudiants sur le département, mais on en a très peu. Et du coup, ça n'invite pas les jeunes à venir s'installer ici, puisqu'on sait bien que pour que les personnes s'installent sur le territoire, il faut qu'elles le connaissent et qu'elles le pratiquent. Donc il y aurait un travail à effectuer là-dessus pour faire venir de nouveaux praticiens.
Voilà, et la santé bucco-dentaire est très importante, hein. Une mauvaise santé bucco-dentaire, on peut lire dans votre communiqué, peut avoir des retentissements assez importants. On peut justement développer d'autres maladies, d'autres organes peuvent être touchés.
Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de « est-ce que vous avez fait vérifier vos dents parce que vous avez telle chose ou parce que vous avez par exemple des migraines ou des tendinites ?» En fait, on ne se rend pas compte, mais au niveau des dents, de la santé bucco-dentaire, il y a beaucoup de microbes, entre guillemets, qui peuvent passer puisque c'est un accès direct à l'intérieur du corps. Et du coup, il faut prendre très soin de ses dents puisque ça peut impacter sur beaucoup de choses. Et il faut d'autant plus en prendre soin quand on est en maladie chronique de type diabète, maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, etc.
Voilà, donc profitez de ce rendez-vous. On va un peu... situer ces rendez-vous, c'est la Mutualité Française Sud, je le rappelle, avec le CSAS de Tallard et le Centre Social de Font-Rennes et le Conseil Départemental des Hautes-Alpes qui mettent en place ces deux ateliers, ces deux actions qui auront lieu.
Alors, ça aura lieu le vendredi 5 novembre pour Tallard. Ce sera à 17h à la salle polyvalente, à côté de la mairie. Et ensuite, pour Gap, on sera sur le mercredi 10 novembre à 14h30. Et ça sera à l'annexe des Cèdres, rue de l'Espéranto. En fait, ça fait partie du centre social de Font-Rennes. Mais voilà, c'est bien l'annexe des Cèdres qui est sur rue de l'Espéranto.
Très bien, ça va durer à peu près combien de temps pour que les gens puissent à peu près avoir un planning assez large justement.
On est entre 1h30 et 2h justement pour pouvoir expliquer comment prendre soin de ses dents et pour qu'on puisse répondre à toutes les questions des participants.
Voilà, donc c'est ouvert à tous, hein, vous l'avez dit en préambule.
Oui. Oui, c'est ouvert à tous, c'est totalement gratuit, donc N'hésitez pas à venir. Et nous aurons par contre besoin du pass sanitaire, mais que pour Tallard. Pour Gap, il n'y en aura pas besoin.
Très bien, mais il y a aussi une inscription, mais non, il n'y a pas d'inscription?
Non, c'est inscription, enfin, on conseille de vous inscrire, mais Si vous n'avez pas l'occasion de vous inscrire ou si vous ne savez pas si vous venez, vous pouvez quand même venir sans problème, sans inscription.
Voilà, bah écoutez, merci Julie Boutelet, et notez bien ces deux rendez-vous vendredi 5 novembre, mercredi 10 novembre pour prendre soin de vos dents. Et vous pouvez d'ailleurs, je vous invite à aller consulter le site internet de la Mutualité Française où il y a beaucoup d'actions que vous menez tout au long de l'année.
Oui, tout à fait, oui.
L'atelier du cachalot fête Halloween ce dimanche.
Animation de rigueur pour petits et grands à Briançon. Au programme, stand maquillage, bowling, une bière surprise brassée pour l'occasion, punch maléfique et fumant. Également distribution de bonbons par Freddy Krueger en personne ou encore lancer de couteaux en plastique les yeux bandés par Chucky. Un illustrateur déglingué et sanglant présentera aussi ses nouveaux travaux. N'ayez pas peur, nous dit Laura Giraud, il ne mord que si on lui demande. À partir de 17h, vous pouvez et devez venir déguiser à Central Park ce 31 octobre. Toute personne ne suivant pas cette règle sera une proie potentielle pour la chasse à l'homme et arme en plastique. Céline, gérante de l'atelier du cachalot, répond aux questions de Laura Giraud.
Céline, vous êtes gérante de l'atelier du cachalot et avec de nombreux partenaires, vous organisez un événement pour Halloween.
Oui, on est plusieurs amis à se mobiliser pour faire vivre un peu le lieu de Central Park pour la fête d'Halloween. Faire participer un peu les enfants, donc de 17 à 21h, et mettre en avant un peu tous les côtés artistiques de chaque personne en fait qui sera sur le lieu. Donc on a Romger qui viendra faire la déco pour Halloween. On a Nicolas Gilles qui viendra faire un vernissage de ses illustrations à l'intérieur de l'atelier du cachalot. Mystikri qui viendra passer de la musique dans le thème d'Halloween. Et on a Théus qui brasse une bière spéciale pour l'occasion à base de Citroën Brasse, qui est un brasseur local sur Briançon. Plusieurs activités pour les enfants. Oui, donc on va mettre des petits jeux assez ludiques pour les enfants en place dans le parc, entre autres une descente de cartes en trottinette pour enfants, un bowling un peu à taille réelle, une pêche à la ligne. Il y aura de nombreux lots à gagner, entre autres des bonbons. Et pour l'occasion, on fera un spécial cocktail d'Halloween donc à l'atelier du Cachalot. Tout ça, ça va se passer du coup le 31 octobre. Donc de 17 à 21h, on va faire des petites animations pour les enfants à Central Park.
D'autres choses ?
Donc toutes les animations seront gratuites et ouvertes à tous, à tout âge. On aura aussi un stand de maquillage pour les enfants et les adultes. Et le but, c'est que chacun aussi vienne déguisé pour l'occasion.
J'aime la différence, l'autisme à sa maison.
C'est un événement et un aboutissement. Le groupe d'entraide mutuelle J'aime la différence, porté par l'association Au Moulin de l'Éveil, a ouvert des locaux boulevard des Amandiers à Manosque. Après le chat qui tousse et J'aime ma vie, c'est le troisième J'aime dans la cité de Giono et à vocation départementale. Une banderole très parlante accueille le visiteur. Bienvenue en Autistan. Comme un pays lointain et fermé, l'autisme reste un phénomène et un objet étranger. D'où l'intérêt de la structure Manosquine, dont l'objectif est l'inclusion des personnes adultes par une équipe alliant professionnels et bénévoles, ainsi que des intervenants extérieurs. Grâce à un accompagnement adapté visant l'emploi, l'habitat, l'accès au sport, à l'art ou la culture. Sans oublier le principe de pair aidance qui rend l'adhérent acteur de son propre devenir, chaque membre rencontrant des problématiques semblables et étant à même d'apporter un soutien, une écoute et un partage d'expériences de santé similaires autour des parcours et des difficultés propres à chacun. Le tout dans un cadre chaleureux, premier étage de pavillon avec un jardin accueillant. La structure se présente comme un accélérateur de bien-être humain, social et professionnel et un révélateur des qualités, capacités et envies des adhérents. Un rappel sur l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental encore souvent décrit comme une maladie alors qu'il est une divergence neurologique naturelle. On ne guérit pas et on ne normalise pas l'autisme, on l'accepte et on respecte les autistes. Car l'autisme et les TSA, les troubles du spectre autistique, se caractérise par des difficultés à établir des interactions sociales et de communication comme comprendre ou décrypter les situations et codes sociaux, le premier degré, les interactions croisées, les questions ouvertes ou encore les sous-entendus. Chez certains, des capacités exceptionnelles sont présentes et font régulièrement les unes de la presse, contrairement à l'immense majorité des personnes concernées, environ 700 000 en France, confrontés à des difficultés d'apprentissage et d'insertion sociale. Récemment a eu lieu l'inauguration du J'aime la différence, lieu de répit et d'ouverture, en présence de nombreux acteurs et partenaires. Je vous propose d'écouter la très dynamique militante de l'inclusion, Evelyne Nouchi, mais d'abord, Sandrine Bonjardini de l'ARS, agence régionale de santé, qui soutient les groupes d'entraide mutuelle. Sandrine Bonjardini, vous représentez l'ARS, l'ARS qui soutient les GEM.
Oui, nous soutenons les GEM parce que c'est important pour nous de promouvoir la pleine citoyenneté des personnes adultes autistes. Et donc, effectivement, nous les soutenons sur un plan financier, donc à hauteur donc d'une dotation annuelle dans le cadre de fonds FIR, à hauteur de 78 000 euros pour un fonctionnement annuel. Nous les soutenons aussi sur l'ensemble des projets que nous accompagnons au niveau des départements, des délégations départementales ARS, puisque nous avons des référents de la politique des personnes en situation de handicap qui accompagnent donc les GEM voilà, et qui soutient effectivement les actions des GEM.
Et l'autisme, c'est un plan 2018-2022 particulier.
L'autisme, c'est effectivement fait partie de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Donc c'est un plan de 2018-2022 qui prévoit effectivement de la petite enfance, l'adolescence à l'âge adulte, l'ensemble des actions pour vraiment permettre l'inclusion des personnes, je veux dire, dans tous les domaines de la vie. Voilà, donc on va faire des interventions aussi pour des parcours de soins, que ce soit pour les enfants, des interventions précoces. Nous, on fait aussi également, on promouvoit des dispositifs pour l'inclusion scolaire des enfants, des unités d'enseignement maternel autisme, des unités d'enseignement élémentaire, puis l'ensemble des dispositifs prévus pour accueillir le public adulte autiste. Ça peut être au sein des établissements, puisqu'on soutient aussi des places aussi donc d'accueil pour les personnes adultes autistes, mais également pour l'inclusion dans la cité. Et les GEM en font partie, j'allais dire, d'une action phare, puisqu'en fait, nous soutenons les GEM, mais après, ils ont leur libre autogestion, et ça, c'est un point important, c'est l'autodétermination et la libre gestion du GEM par les personnes autistes.
Alors justement, il y a 3 GEM à Manosque, avec ici le GEM La Différence, mais aussi le Chakitous et puis GEM Ma Vie. C'est assez exceptionnel, 3 GEM dans une ville de 20-22 000 habitants.
C'est exceptionnel et comme je le disais tout à l'heure, ça révèle le dynamisme de ce département qui vraiment accorde une place importante, je dirais, à la représentativité aussi des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment important. Et du fait qu'effectivement, on a alors 3 GEM différents. Lui, le GEM La Différence, c'est le GEM TSA. Nous avons 2 autres GEM qui ont un public qui s'occupe d'un public différent. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dans cette dynamique de territoire et ça, c'est vraiment intéressant et c'est soutenu localement par les maires, par les élus et c'est d'autant plus structurant d'avoir cette démarche-là.
Alors vous êtes vous-même fonctionnaire en poste à Marseille, on vous a senti très sensible, très ému aussi lors de l'intervention des jeunes autistes ici même.
Oui, on peut qu'être ému parce que déjà leur témoignage, je veux dire, ils parlent vraiment de leur vie, de leur parcours et ça, on peut que s'en saisir. Et je crois que même si on est fonctionnaire, moi je viens du secteur du handicap initialement, alors bon, bien sûr je suis référente régionale pour l'autisme, mais je connais très bien le handicap d'un point de vue personnel. Donc c'est important aussi d'avoir, j'allais dire, des fonctionnaires qui sont là, qui sont sur le terrain et aujourd'hui d'être là parmi eux. Aujourd'hui, on ne voit pas de différence et c'est bien, c'est le GEM La Différence, mais non, il n'y a pas de différence. On est là pour promouvoir l'inclusion des personnes à tous les différents niveaux, fonctionnaires, personnes, peu importe qui on est. L'important, c'est d'être aussi ensemble et de partager, de co-construire ensemble.
Alors, vos côtés, quelqu'un qui a apprécié votre intervention et qui apprécie également votre travail à Marseille, c'est Evelyne Nouchi. Vous êtes responsable du Moulin de l'Éveil. Le Moulin de l'Éveil, vous êtes aussi la cheville ouvrière de ce GEM La Différence ici à Manosque.
Le Moulin de l'Éveil a été créé en 2007 pour s'occuper des enfants parce que mon petit-fils était né autiste. Et puis, les choses ne se sont pas faites tout de suite. Et dans le temps, j'ai commencé à me poser la question sur ma carrière, qui est quand même une longue carrière, parce que maintenant, je suis pas toute jeune. Et puis, je me suis dit que l'emploi était sûrement quelque chose d'important à prendre en main. Et je me suis posé cette question en me disant, c'est ce que je sais faire le mieux, c'est ma zone de confort. Faut que j'y aille, il faut que je les aide, parce que c'est l'avenir qui compte et qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard. Je me rendais compte qu'ils avaient tous des capacités, et on parlait toujours d'intérêt restreint. Moi, j'ai préféré dire ça spécifique, parce qu'on est tous des passionnés de quelque chose. Donc, pourquoi quelqu'un pourrait écrire un livre en travaillant 12 heures par jour, et pas eux? Donc, on leur reprochait de trop être sur quelque chose, de trop ceci, de trop cela, d'être pas ceci, d'être pas cela. Alors qu'en fin de compte, ils avaient plein de valeurs, et que ces valeurs, m'ont touché. Parce que tous les jeunes que vous avez vus ici et tous ceux que vous avez vus, c'est des jeunes avec des grandes valeurs. Ils sont sains, ils sont vrais, ils sont directs. Alors, ça peut toucher des personnes qui vont pas accepter qu'ils aient cette droiture, qu'ils aient en même temps cette naïveté. Ça, c'est difficile dans le monde dans lequel on est actuel. Donc, faut les aider. Et c'est là où la paire aidance est importante. Parce qu'on va avoir dans cette démarche auprès d'eux depuis tout petit jusqu'à 60 ans. Et puis, au Moulin de l'Éveil, un jour, a dit, on va répondre, pendant le corona, on va répondre à un projet. Parce que, au Moulin de l'Éveil, on peut plus, on est indépendant, on est tout seul, on fait l'emploi comme on peut. Mais on peut pas tout le temps, tout seul, continuer à avancer, on va pas y arriver. Et on a entendu parler des GEM. Et on s'est dit, toutes ces personnes qui sont là et qu'on voit que de temps en temps, qu'on aide comme on peut, que je vais dans les entreprises comme je peux, je fais ce que je peux, faudrait qu'ils aient un lieu de rencontre et qu'ils soient là pour partager tout ce qu'ils apprennent et tout ce qu'ils apprennent avec moi, mais avec plein d'autres personnes aussi. Donc, qu'on trouve ce lieu. Et on a répondu à cet appel d'offres en disant peut-être qu'on aura droit un jour, mais on sait pas. Et quand au mois d'avril, on a appris qu'on était reçus, ça a été le plus beau jour de notre vie. Et on s'est dépêché, je crois peut-être trop vite, d'autres vont plus lentement, mais nous, on était tellement heureux qu'on n'a pas arrêté de solliciter l'ARS d'ailleurs, qu'on remercie beaucoup parce qu'on n'a pas arrêté de faire ça, pour démarrer le plus vite possible Et puis ben, tous les jeunes de MDE qui étaient accompagnés, on en a quand même maintenant 18 qui sont accompagnés, et on n'est que deux hein, à s'en occuper. Et ben, tout le monde s'est investi, tout le monde est venu, tout le monde a dit oui. Et puis tout le monde s'est senti chez lui. Et moi, ce que j'aime ici, et ça me touche beaucoup, c'est que pour eux, ils disent ici, on est en famille, parce que beaucoup n'ont pas de famille. Beaucoup sont éloignés de leur famille. Beaucoup, comme Vincent, vont vous dire, ben, ou d'autres, vont dire, ben, moi, pendant 15 ans, je suis restée tout seul chez moi, enfermée, en parlant à personne. Donc, c'est sortir de l'isolement, c'est sortir du rejet, c'est sortir de cette fameuse différence que nous, ben, on trouve ça normal, que ce soit différent, qu'on soit tous différents, on est tous différents, des blonds, des bruns, des brunes, même pourquoi pas des autistes et pas des autistes. Et c'est ce qu'on cherche ici de retrouver, c'est un cadre familial. Et on a eu en plus la chance de trouver ce lieu où la propriétaire est une ancienne ambulancière. Elle déplaçait des personnes handicapées, donc elle connaît très bien le handicap et elle nous accepte dans ce sens. Et c'est ici, je pense, qu'on va essayer de recréer une vie de famille pour tous les autistes, sans différence de niveau d'autisme ou d'autisme, c'est des autistes, et avec leur handicap. Et on va essayer de faire le mieux possible pour eux, pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils soient heureux d'être acceptés et de vivre acceptés. Et ce que j'ai pu voir pendant tout le temps où on a mis en place, c'est cette peur qu'ils ont en permanence. Et je pense que c'est là où vient l'anxiété. Est-ce que j'ai le droit de ? Et ça, c'est ça qui me fait mal et qui me touche beaucoup. C'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le droit de toucher, de faire, d'avoir droit à quelque chose et de vivre. Et vous avez quelqu'un comme Vincent qui pense qu'il n'a pas le droit de vivre. Et vous avez beaucoup d'autistes, comme dit Joseph, qui se suicident ou qui finissent SDF parce qu'ils ne se sentent pas acceptés par personne. Ils sont différents, mais on est différents. Ils nous apportent des différences, ils nous apportent des belles choses. Ils nous apportent aussi de se remettre en question, de revoir les choses autrement, d'être beaucoup plus vrai, d'être beaucoup plus dans la vérité et pas dans le superflu, dans le superficiel. Ça ne les intéresse pas. Ils viendront ici en short ou en tong parce qu'il n'y a pas de lien dans tout ça. Il y a leur intérêt à eux. Alors, certains vont avoir des intérêts spécifiques très particuliers qu'ils croient ne pas pouvoir réaliser dans leur vie. Moi, je sais que je vais essayer de continuer avec le Moulin de l'Éveil et le GEM à leur apporter leur métier qu'ils ont souhaité de faire s'ils veulent faire un métier, puisque c'est mon niveau de compétence, et qu'ici, ils retrouvent le joie, la bonne humeur, les rencontres, les jeux, le loisir, le sport, la détente, et qu'ils apprennent à vivre autrement, pardon de le dire, hein, mais que dans l'enfermement. Parce que malheureusement, on les a enfermés dans leur tête, mais on les a enfermés dans leur corps. Et on leur a enfermés dans beaucoup de choses. Et dès qu'on les enferme plus et qu'ils sont libres, ben, ils arrivent à exprimer tellement de belles choses que j'espère qu'après moi, parce qu'à l'âge que j'ai, je pense qu'il y aura après moi, ben, qu'après moi, les choses continueront et qu'ils auront leur place dans la cité parce qu'ils ont une belle place à prendre. Ils ont des compétences exceptionnelles. Le tout, c'est de les accepter. Leur cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre, mais peut donner de tellement beaux résultats qu'il faut juste être humble. Et voilà, donc pour moi, l'autisme, et ce qui arrive ici, c'est de pouvoir justement développer l'humilité, la bienveillance et la solidarité. Et j'espère qu'on va retrouver ces valeurs-là et que eux les porteront pendant longtemps. C'est pour ça que vous avez vu à l'entrée Bienvenue en Autistan, parce que je pense que ce monde de l'autistan est un monde qu'on devrait rapprocher un peu plus. Il naît beaucoup d'enfants autistes. On en est à 1 sur 50, à mon avis, dans pas longtemps, on va être à 1 sur 25 parce qu'on ne sait pas trop. Et tous les troubles qui sont associés, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, vont avec. Et il faut les aider. Et il faut être là. Mais en fin de compte, vous déclenchez la machine et elle se met en marche toute seule. C'est juste qu'il y a eu des enfermements qu'on n'a pas compris. Et ça, j'ai trop d'expériences d'enfermement. Quand je vous parle d'enfermement, c'est des vrais qui sont incroyables, quoi, que c'est pas possible. Et pourtant aujourd'hui, après 7 ans, après 10 ans d'enfermement dans des hôpitaux psychiatriques, aujourd'hui ils sont avec nous et travaillent. Donc pour moi, c'est ça qui est beau, et j'espère que je pourrai encore comme ça, grâce justement à l'ARS, intervenir dans des institutions plus souvent pour aller les chercher où ils sont et les ramener vers nous, vers des GEM, et leur permettre de justement d'exprimer ce qu'ils sont et de sortir de cet handicap qu'on dit mental, et est-ce qu'il l'est vraiment mental. Voilà.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Bien sûr. Merci Olivier pour la régie. À bientôt.